émission spéciale Immobilier d'entreprise, bilan et perspective. La résilience pour garder le cap. Une émission en partenariat avec EPA Marne, EPA France, présentée par Johanna Zilberstein, jeudi 25 mars 2021, en direct sur Radio Immo.
Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Immo en ce jeudi matin pour une émission spéciale que nous coproduisons avec EPA Marne. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons parler immobilier tertiaire, immobilier d'entreprise, bilan et perspective hein, sur le territoire d'EPA Marne, EPA France. La résilience pour garder le cap, on sait que l'année 2020 a été un peu particulière, hein, notamment pour les locaux d'activité, pour l'immobilier tertiaire, mais particulière ne veut pas dire mauvaise. Et ça, on va le voir avec nos invités. D'abord, le directeur général d'EPA Marne, EPA France, Laurent Girometti. Bonjour.
Bonjour, Johanna.
Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes venu avec Christophe Moche, qui est directeur du développement EPA Marne, EPA France. Bonjour, Christophe.
Bonjour, Johanna.
Et on a également sur ce premier plateau Sophie Rosen, qui est directeur du service recherche chez JLL. Bonjour, Sophie. Je suis ravie de vous accueillir tous les trois. Vous êtes seulement trois pour l'instant pour cette première partie où nous allons pouvoir parler de cette étude menée par JLL pour EPA Marne et EPA France. On va voir comment s'est comporté l'immobilier d'entreprise sur ces 12 derniers mois. Et puis nous ferons un petit changement de plateau pour accueillir eh bien, nos experts terrain, j'ai envie de dire, ceux qui ont vécu ces 12 derniers mois sur ce territoire EPA Marne et EPA France. On aura en ligne avec nous Stéphane Salini, qui est le président de Salini Group. Et sur le plateau, Charles-Antoine Corr, qui est directeur Île-de-France pour le Gendre Immobilier, et Ronan Leland, qui est président du directoire d'Argan. Tout ça, ce sera pour un retour terrain, une impression des professionnels de ces 12 derniers mois. Mais avant, je vous l'ai dit, on démarre avec cette étude.
Émission spéciale. Immobilier d'entreprise, bilan et perspective, la résilience pour garder le cap.
On va donc commencer par voir quels sont les enseignements de cette étude menée par JLL pour EPA Marne, EPA France, avec vous notamment Sophie, mais avant je voudrais me tourner vers vous Laurent Girometti pour vous demander cette étude, alors elle est menée de manière annuelle hein, par EPA Marne, EPA France, pourquoi, quel est l'objectif ?
C'est une étude qu'on réalise chaque année, qu'on fait réaliser chaque année. Il faut savoir que le territoire sur lequel intervient EPA Marne, EPA France, donc un grand territoire à l'est du Grand Paris, qui historiquement a aménagé notamment la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, c'est un territoire qui repose sur une double composante résidentielle et économique. On travaille beaucoup sur cette question d'un territoire qui soit équilibré, qui est à la fois du résidentiel et des emplois. C'est vraiment inscrit dans les gènes de l'établissement depuis le début. Donc c'est très important pour nous de suivre où on se situe justement sur le plan des différents marchés des locaux économiques d'une manière générale, que ce soit du tertiaire ou des locaux d'activité. Ça nous permet de nous situer, ça nous permet de mesurer où nous en sommes, ça nous permet aussi de communiquer avec nos partenaires, puisque nous avons régulièrement, bien sûr, des offres qui se renouvellent et des partenaires avec lesquels nous développons le territoire.
Cette mixité dont vous nous parliez entre résidentiel et activité, c'est dans les gènes d'EPA Marne et EPA France, c'est dans les gènes de Marne-la-Vallée, de toutes ces villes nouvelles dont la promesse, quand elles sont arrivées hein, dans les années 80-90, était de mêler, de permettre aux gens d'habiter et de travailler sur le même territoire.
C'est tout à fait ça. On a à peu près sur le territoire de l'ex-ville nouvelle un emploi par actif résident. Donc ça, c'est un élément important. Et je dirais, c'est à l'est du Grand Paris, c'est déjà le territoire qui tire le mieux son épingle du jeu de ce point de vue. On a des caractéristiques de desserte, notamment, qui l'expliquent. Hein, et ça a été fait pour. Quelque part, c'est le principe même d'un secteur qui a été aménagé volontairement en pensant à large échelle que de prévoir ces éléments-là. Donc le but, c'est un résidentiel agréable, de l'activité et des emplois qui soient faciles à vivre, pratiques, et puis des aménités. C'est un territoire, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est un territoire sur lequel finalement la qualité de vie et de travail est assez élevée.
Et on va voir comment le marché tertiaire s'est comporté ces 12 derniers mois. Avant justement, Christophe Moche, ces 12 derniers mois ont été très particuliers. Il y a eu cette crise sanitaire qui a d'abord mis le pays à l'arrêt complet pendant plusieurs mois, puis une reprise. Et puis finalement, on se rend compte que ça n'a pas été si mauvais que ça pour le tertiaire.
Tout à fait, Johanna. Effectivement, on ne va pas se mentir. Il y a un an, 16-17 mars, quand on a vu cette crise sans précédent qu'on n'avait jamais vécue arriver devant nous, on a été très inquiets à l'établissement public. Laurent en a parlé juste avant. Nous avons en charge le développement résidentiel et le développement économique. On sait que le développement résidentiel est quelque chose qui marche très, très bien sur notre périmètre d'intervention. Le développement économique, on s'est vraiment posé des questions de savoir si ça allait fonctionner, si on n'allait pas avoir un vrai marasme devant nous. Et je pèse mes mots lorsque je dis ça. Et in fine, ce n'est pas du tout le cas. Donc honnêtement, un an après, aujourd'hui, on est beaucoup plus serein. Je ne vais pas déflorer tout le sujet, puisqu'après, Sophie en parlera bien mieux que moi, elle a réalisé l'étude pour le compte des Pamarnes et pas France. Mais on a eu une vraie résilience de marché, pas du tout de décrochage, ni sur le développement tertiaire, ni sur les locaux de l'activité, ni sur la logistique. Nos invités, après, pourront en parler. Je vais juste donner trois chiffres, et après, je laisserai Sophie continuer. Sur la partie tertiaire, on a une profondeur de marché qui est certes limitée sur Marne-la-Vallée, environ 2 millions de mètres carrés de bureaux. C'est toujours une demande comprise entre 50 et 60 000 mètres carrés. C'est à peu près la moyenne que l'on a. L'année dernière, on a 50 000 mètres carrés. Donc ça veut dire pas de décrochage. Le vrai marché de Marne-la-Vallée sur le bureau, c'est de la petite surface, demande placée moyenne d'environ 450-500 mètres carrés, et avec toujours une à deux belles transactions d'une surface supérieure à 5 000-8 000 mètres carrés. Ça a été le cas, on y reviendra juste après. Les locaux d'activité, c'est pareil. Toujours une demande placée comprise entre 160 000 et 200 000 mètres carrés par an, moyenne quinquennale d'un peu moins de 170 000. L'année dernière, c'est 160 000 mètres carrés sur le territoire. Encore une fois, pas de décrochage. Ça veut dire que ça continue de bien fonctionner malgré le contexte pandémique et le sujet du report des deuxièmes tours des élections municipales. Et au niveau de la logistique, je le précise, Marne-la-Vallée n'est pas une destination logistique en tant que telle. Néanmoins, on travaille sur du développement logistique avec les acteurs, mais je dirais qu'on est plutôt sur de la logistique à valeur ajoutée, soit très pourvoyeur en nombre d'emplois, soit avec une valeur ajoutée du process, une part de bureaux importante. Et l'année dernière, c'est quasiment deux fois plus qu'en 2019. C'est plus de 80 000 m² de demandes placées sur cette typologie de produits. Donc au final, une très bonne année et une vraie résilience de marché. Donc on est très content. Et Laurent a un peu esquissé le sujet, un emploi pour un actif. Mais sur le territoire, c'est plus de 20 000 établissements implantés, c'est plus de 217 000 emplois. Et on a la chance d'avoir un terreau de PME-PMI qui est très, très important. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça fonctionne bien. Contrairement à d'autres territoires qui sont plus sectorisés, je dirais que notre diversité en termes d'implantation d'entreprises nous a beaucoup aidés. Mais je pense qu'on y reviendra après.
Et bien, puisqu'on a donné les premiers chiffres, on va poursuivre sur cette lancée avec vous, Sophie Rosen. Alors, cette étude, elle fait le bilan de l'année écoulée, de l'année 2020. Quelles sont les grandes tendances et les enseignements à retenir ?
Effectivement, je rejoins complètement Christophe. Le mot à retenir, si je puis dire, de ce bilan, c'est robustesse. Je rejoins complètement robustesse sur le marché tertiaire, industriel, logistique. On va le voir tout de suite. On a eu une belle performance, une bonne résistance du marché locatif tertiaire. Pour rappel, quand même, le marché francilien s'est contracté de moitié. On a eu une demande placée au niveau de l'Île-de-France qui a diminué, a chuté de moins 45%. Le marché donc de l'EPAMAR n'est pas France a légèrement baissé de 13%. Donc c'est un repli très mesuré et on a une certaine pérennité et résilience du marché. Ça, c'est un point très important à souligner. Ce niveau de transaction qui s'est relativement maintenu, effectivement, il est grâce à un tissu local de TPE, PME, dynamique et diversifié. Je rejoins là encore Christophe, aujourd'hui, qui ont consommé à peu près 40% des surfaces. Et les 60% restantes de l'activité locative, eh bien, c'est des grands comptes qui se projettent sur le territoire et qui n'hésitent pas à saisir des opportunités immobilières, telles que l'EPAMAR n'est pas France l'a fait pour accueillir son futur siège social dans l'immeuble 15 à Champs-sur-Marne. Mais il y a également le GAP et il y a également Bureau Veritas pour les trois plus grandes transactions. Il y en a plein d'autres. Il y a une dizaine de transactions de plus de 1000 m². Donc voilà, il y a aussi des grands groupes qui se projettent. Le deuxième message que je voulais partager ce matin, c'était qu'effectivement, malgré les incertitudes liées au contexte actuel, eh bien, les entreprises se projettent toujours sur le long terme en n'hésitant pas à acquérir leurs locaux. Ça, c'est un point important, puisqu'aujourd'hui, c'est une entreprise sur quatre qui achète leurs locaux dans une logique souvent patrimoniale et aussi pour maîtriser les charges. Et ceci, ça a été rendu possible grâce à une offre qualitative qui répond bien sûr aux attentes des entreprises et une offre aussi bien desservie.
Ça veut dire malgré tout que le marché est plutôt à la location ?
Alors, le marché est en proportion plus orienté à la location, mais la part d'acquisition est quand même notable et doit être relevé, parce que comme je vous disais, c'est une entreprise sur quatre qui achète aujourd'hui. En Ile-de-France, c'est 10% du take-up, hein, donc de la demande placée qui se fait à l'acquisition. Donc vous voyez que les entreprises, en tout cas sur le territoire, se projettent vraiment sur long terme et n'hésitent pas à acheter leurs locaux. Donc ça, c'est un point notable et différenciant très clairement. En matière d'offres, on a un taux de vacances qui est maîtrisé hein, sur le tertiaire. On a 6,2% de taux de vacances. Donc, on a un marché qui est à l'équilibre. En général, autour de 5-6%, on dit que le marché est à l'équilibre. En dessous, on est dans une contraction de marché. Au-dessus, on commence à avoir un marché déséquilibré et plutôt offreur. Donc, ça aussi, c'est plutôt sain. Il y a de l'offre. Qui permet quand même aux entreprises de trouver leurs locaux, mais on n'est pas en suroffre et donc il n'y a pas un déséquilibre de marché. Et donc on a une palette très complète aujourd'hui d'offres proposées aux entreprises. Donc ça, c'était le deuxième aussi point à noter. Et au-delà de cette offre immédiate, on a de nombreux projets aujourd'hui qui se développent sur le territoire pour répondre notamment à l'appétit croissant des entreprises pour les locaux neufs. On a à peu près 110 000 m² de bureaux en cours de développement et potentiellement livrables à 3 ans. La gare Noisy-Champs du Grand Paris Express cristallise une grande partie de ces développements puisqu'on a l'arrivée de la ligne 15 à horizon 2025. Là encore, c'est un fait notable à soulever puisque c'est très important, bien évidemment, pour les entreprises. En matière de valeur locative sur le tertiaire, les développements neufs aujourd'hui affichent des valeurs comprises entre 200 à 220 euros. C'est le loyer prime dans notre jargon. Donc ce sont des prix qui sont compétitifs, hein, encore une fois, au regard de ce qui se fait dans d'autres marchés. Deuxième couronne sud, si je compare vraiment deuxième couronne, on a 240 hein, loyer prime. Et si j'avance plus proche de l'agglomération, là, les prix s'envolent. Je ne rentre pas dans Paris, hein, juste en première couronne. On est 340, 390 sur l'est et le sud. Et on dépasse les 40 au nord. Et à l'ouest, on est à 420, 450. Donc on voit tout de suite le réel intérêt et avantage compétitif qu'a Marne-la-Vallée en termes de destination tertiaire pour les entreprises. Donc ça, c'est pour le marché tertiaire. Pour le marché de l'activité, robustesse, même message. Effectivement, on a un volume de demandes placées qui atteint en 2020 160 000 m² placés sur des locaux industriels. C'est un léger repli qui est extrêmement modéré par rapport à la moyenne des 5 dernières années, autour de 4-5%, ce qui atteste vraiment la résilience, une nouvelle fois, de ce marché. Et ce maintien du bon dynamisme, en fait, est lié à la demande des petites et moyennes industries locales, présentes localement. Mais aussi, on a beaucoup de belles signatures, une trentaine, hein, des signatures significatives supérieures à 1500 m². Alors, bien sûr, je ne vais pas toutes vous les énumérer. Aujourd'hui, si on n'en retient qu'une seule, qui est la plus importante de l'année, c'est la transaction de l'INLEC à Ceris, hein, donc sur le pôle de Val d'Europe, pour plus de 5000 m². Et là aussi, un fait notable à noter sur le marché industriel, c'est que les locaux neufs à l'acquisition sont extrêmement plébiscités. Et donc les acquisitions cette année ont constitué vraiment une réelle alternative à la location. Et 40% des transactions se sont faites à l'achat sur le marché industriel, versus à peu près 30% en Ile-de-France. Et donc ça a été motivé notamment par une conjoncture qui était quand même plutôt favorable ces 4 dernières années et une offre aussi de locaux, de produits neufs en adéquation là encore avec les entreprises. Donc là aussi sur le tissu, sur le marché industriel, les entreprises se projettent et n'hésitent pas à acheter. 40% c'est quand même très très important, c'est vraiment presque une transaction sur deux se fait via l'achat de leurs propres locaux. En matière d'offres, on a un marché qui est très sain sur le marché industriel et qui a l'équilibre aussi. On a autant de demandes annuelles à peu près que de locaux disponibles. Aujourd'hui, les locaux disponibles, c'est à peu près 150 000 m² disponibles. Mais par contre, la caractéristique, c'est que 90% de l'offre aujourd'hui vacante sur le territoire est de seconde main. Et pourquoi ? C'est parce qu'on a une année qui a été marquée par de nombreux déménagements, justement, d'entreprises vers des locaux neufs. Et donc, ça engendre une tension donc, sur le segment du neuf, une hausse des valeurs locatives qu'on a pu constater un peu sur le neuf, légère, mais un petit peu. Et ça suscite un besoin vraiment de mise en chantier de nouvelles opérations sur les territoires. Justement, pour répondre à ce besoin et à cette appétence du marché en produits neufs, hein, il y a cette absorption rapide qu'on a pu le voir. De nombreux projets aussi sont développés sur le territoire. On a à peu près un volume de plus de 90 000 m² livrables à raison de 2024. Et ce sont une offre qui est composée, bien sûr, de surfaces modulables, qualitative, compétitive, à proximité immédiate des axes majeurs de transport. Et en tout cas, la crise de la Covid-19 a quand même souligné le rôle clé du tissu industriel et productif dans les métropoles. Les questions de l'indépendance sanitaire, de l'empreinte carbone, de la sécurisation des chaînes d'approvisionnement sont des sujets de plus en plus prégnants et qui vont perdurer dans les années. Enfin, pour conclure ce tour d'horizon du marché immobilier ce matin avec vous, le marché de la logistique, robustesse, voilà. Également, on a à peu près plus de 80 000 m² effectivement placés sur les entrepôts logistiques en 2020. Donc c'est un niveau de demande extrêmement soutenu. On a une transaction de phare qui est la transaction de Locapost auprès d'Argan à Ferrières-en-Brie pour un peu plus de 30 000 m². Et le territoire clairement séduit en capitalisant sur sa très bonne accessibilité et proximité de Paris. En matière de disponibilité, on a une offre logistique très circonscrite, à peu près 30 000 m² de locaux aujourd'hui disponibles immédiatement. Mais en complément, on a vraiment plusieurs développements neufs à venir qui permettent de belles opportunités foncières. Donc on a trois projets actuellement en développement, tous développés par Argan et proposés à la localisation. Donc là aussi, hein, l'attrait déjà important pour les solutions de logistique à valeur ajoutée, notamment logistique du dernier kilomètre, devrait aussi se renforcer, hein, notamment pour fluidifier les chaînes d'approvisionnement et atteindre un maillage territorial vraiment fin aux abords de la capitale.
Voilà pour ces études, cette étude et ces quelques chiffres. Merci Sophie. Alors si on veut résumer tout ça, on peut dire que ces 12 derniers mois, le marché du tertiaire sur le territoire restait très dynamique, que finalement le repli a été plutôt moindre, d'autant plus avec cette crise sanitaire. Et surtout, ce que je retiens, c'est que le territoire est attractif. On voit ces grandes signatures, ces entreprises qui n'hésitent pas à se porter acquéreurs de locaux sur le territoire d'EPAMARNE, d'EPAFRANCE, ce qui veut dire qu'ils veulent s'y installer. Alors Laurent Girometti, qu'est-ce qui rend ce territoire si attractif ?
Alors ça a été dit, un niveau de desserte qui est quand même remarquable, avec à la fois une connexion, on va dire, au cœur métropolitain qui est fluide, important. On a le RER, bien sûr, qui structure le territoire depuis très longtemps, mais ça a été dit, l'arrivée du Grand Paris Express est quelque chose que les uns ou les autres commencent à anticiper. Là, si je prends notre propre cas, c'est sûr que l'acquisition de nos locaux, nos futurs locaux que nous avons réalisés cette année, cet élément-là est déterminant pour la décision. On va se retrouver avec un niveau de desserte pour les salariés qui sera bien meilleur que ce qu'il était auparavant. Donc, premier point. Une connexion au reste du territoire national très bonne aussi. N'oublions pas que la gare TGV de Marne-la-Vallée-Chécy nous met à proximité de très nombreux points européens et français.
Notamment de Roissy, je crois,
bien sûr. Alors, on est à quelques minutes et à moins de 20 minutes des deux aéroports. Alors en ce moment, certes, ça sert moins, mais enfin, pour le futur, il y a quand même un moment où ce type de déplacement reprendront, et puis tout simplement la connexion ferroviaire. Donc vous avez à la fois une connexion à la métropole, une connexion au reste du territoire, national, international, européen, et puis une vie propre au territoire également. Et ça, c'est important, c'est cette diversité, je pense, qui fait la force du territoire. Ça a été souligné. Beaucoup d'entreprises, finalement, et de toute taille. C'est-à-dire qu'on a des TPE, on a des PME, on a des PMI, avec des vrais parcours résidentiels également, et une inclusion dans le territoire. C'est un autre élément d'attractivité. Et là, on en revient à l'équilibre territorial sur un territoire agréable et où on développe aussi du résidentiel. C'est finalement la proximité au lieu d'habitat peut être intéressante pour les entreprises. Et ce qu'on remarque, c'est qu'une fois qu'elles s'inscrivent dans le territoire, elles ont plutôt le souhait d'y rester et de s'y développer, donc de s'y implanter durablement. Donc il y a fréquemment, en effet, des transactions qui sont circulaires, quoi. Des gens qui cherchent des locaux pour s'agrandir, pour faire évoluer leur activité. Donc un territoire qui finalement, et ça a été quelque part... une source de réconfort, cette étude, pour nous, c'est de se dire, oui, le territoire a une solidité intrinsèque qui fait plaisir à entendre dans une période qui est difficile. J'ajoute que ça nous permet aussi de constater que toutes les entreprises n'ont pas été frappées par la crise de la même manière. On le sait, bien sûr, certains secteurs sont beaucoup plus impactés que d'autres. Et on est comme ça dans une sorte de moment de transition où, du coup, beaucoup d'entreprises aussi réfléchissent à leur futur. Et bien sûr, leurs locaux, ça fait partie de leur futur, de leur projet. Donc, on est ravis quand on peut les aider à concrétiser ce projet sur le territoire que l'on aménage.
Justement, puisqu'on parle des locaux, là, je vais me tourner vers vous, Christophe Mauge. Sophie a souligné le fait qu'il y a beaucoup de demandes sur les locaux neufs, des entreprises qui achètent ces locaux neufs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises préfèrent investir finalement dans la pierre, dans l'immobilier, plutôt que de garder leur argent en banque.
C'est plutôt une très bonne nouvelle parce que ça montre la confiance qu'ils ont sur le territoire. Laurent en a parlé. Les entreprises qui sont généralement implantées sur notre périmètre d'intervention, elles s'y sentent bien, leurs collaborateurs également. Et donc, il y a un vrai parcours résidentiel sur le territoire. Il faut savoir qu'environ une transaction sur deux, c'est une transaction endogène. Une entreprise du territoire qui se repositionne parce que besoin de croissance, besoin de s'agrandir, croissance externe, croissance interne, mais en tous les cas, repositionnement sur le territoire. Donc, en tant qu'aménageur, nous, on se doit d'avoir toujours des fonciers disponibles. Donc, on a un portefeuille foncier aujourd'hui pour la partie locaux d'activité d'environ 90 hectares. Ce qui nous permet de répondre à ces besoins. Et je dirais que ces transactions, ça veut dire aussi qu'on fait plutôt bien notre travail à l'établissement public. Parce qu'on a aussi accompagné le développement d'opérations immobilières et ces promoteurs mettent à disposition des locaux et derrière, il y a les transactions qu'on vient de citer. Aujourd'hui, nous, sur les 90 hectares de fonciers activités immédiatement disponibles, c'est des fonciers compris entre 5000 m² et quasiment 8-9 hectares regroupables. Donc, on est capable de répondre à tout un tas de demandes. Et sur la partie tertiaire, on s'attache à développer avec des promoteurs. Charles-Antoine Corr de Legendre est présent tout à l'heure, il pourra en parler, il développe des projets sur le territoire. On s'attache à développer des projets tertiaires, mais également nous avons des fonciers disponibles immédiatement au pied de gare pour répondre à des demandes de clés en main. Et la particularité du territoire sur le plan tertiaire, c'est deux pôles tertiaires distincts, entre guillemets, un pôle plus métropolitain sur Noisy-Champ, donc vraiment rattaché à Paris. Aujourd'hui, le RERA, demain, un des plus gros hubs en termes de transport en commun du Grand Paris, avec le ligne 15 qui arrivera en 2025 et ensuite la ligne 16. Et le pôle de Montévrain-Val d'Europe, qui est, lui, un petit peu plus excentré. Et je dirais que c'est une des particularités, puisqu'on pourrait se dire un petit peu plus excentré de Paris, donc marché différent, valeurs qui peuvent être moindres. Ce n'est pas du tout le cas. C'est un autre marché qui répond à des besoins locaux, avec des niveaux de valeurs qui sont semblables à ceux d'un pôle métropolitain de Noisy-Champ, et qui sont des valeurs qui se tiennent bien. Voilà, donc on s'attache d'un côté à avoir des fonciers disponibles, on développe des projets avec des promoteurs pour la commercialisation de locaux dans la foulée, et on a également des fonciers pour réaliser des clés en main auprès d'utilisateurs finaux.
Merci Christophe, on va profiter de ce dernier mot pour remercier Sophie Rosen de nous avoir présenté cette étude. Sophie, vous allez laisser votre place à nos rôles, vous avez encore quelques secondes, hein, vous en faites pas. Maintenant qu'on a placé le contexte, on va pouvoir voir comment ça s'est traduit sur le terrain, sur ce territoire d'EPAMARNE et EPAFRANCE. On se retrouve dans quelques instants avec la seconde partie de cette émission spéciale.
Émission spéciale, immobilier d'entreprise, bilan et perspective, la résilience pour garder le cap. Une émission en partenariat avec EPAMARNE, EPAFRANCE, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.